Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La RDC et le Rwanda ont décidé hier, mercredi 6 juillet, d'un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. Annonce faite par le président angolais João Lourenço à la fin du sommet tripartite qui visait à régler les conflits armés dans l'est de la RDC. Sous la médiation angolaise, les deux parties se sont entendues sur le retrait immédiat des positions occupées par les M23. Un mécanisme d'observation ad hoc sera mis en place et dirigé par un officier angolais, a précisé le président angolais. Dans leur discussion, les trois chefs d'État ont aussi parlé de l'exploitation des ressources naturelles de la RDC qui doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États. Quelle lecture faites-vous des conclusions de cette rencontre? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons Giscard Koussema, il est directeur adjoint de la presse présidentielle. Bonsoir, monsieur Giscard Koussema.
Bonsoir, Timothée.
Professeur Dadi Salé, il est docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Et bonsoir, professeur Dadi Salé.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Et Thomas Dakin Mouiti, il est vice-président et porte-parole de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur Thomas Dakin Mouiti.
Bonsoir, Guimaté.
Merci et bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, retombée de la rencontre Félix Tshisekedi-Paul Kagame à Luanda, sous la médiation du président angolais João Lourenço, Kinshasa et Kigali acceptent de baisser la tension en vue de restaurer la confiance entre les deux États voisins. Une feuille de route a été décidée. Il parle notamment de l'arrêt des hostilités entre FRDC et M23 et du retrait immédiat du M23 de ses positions sur le sol congolais. La normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda est aussi évoquée. Michel Kifinangoy pour les détails.
La tripartite de Luanda s'est clôturée par une conférence de presse des trois présidents. L'idée de mise sur pied d'un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda a été acceptée par les protagonistes. Ce processus s'est fait graduellement à travers une feuille de route dite de Luanda. Ce document est axé sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années. Cette commission va tenir sa première rencontre le 12 juillet prochain dans la capitale angolaise. La feuille de route fait état, entre autres, d'une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Elle prévoit aussi la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC. La feuille de route parle aussi du retour des réfugiés dans leur pays d'origine. Dans le même document, il est dit que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États.
Merci à vous, Michel Kifinangoy. Les avis des élus nationaux sur les conclusions du sommet de Luanda divergent. Les députés de l'Union Sacrée interrogés saluent les conclusions de cette rencontre qui, selon eux, confirme l'acceptation par les Rwandais de son soutien avéré au M23 et de son exploitation illégale des minerais de la RDC. Les élus de l'opposition qui se sont confiés à notre micro jugent quant à eux ce sommet de sans enjeux et d'inutile car, selon eux, les Rwandais ne respectent jamais ses engagements. Elles plaident plutôt pour le renforcement du système de défense de la RDC pour dissuader Kigali à ne plus tenter d'agresser la RDC. Une fois de plus, Michel Kifinangoy pour les détails.
Les députés du FCC saluent les conclusions de cette tripartite qui met en lumière le soutien avéré du Rwanda au M23. Jacques Joly.
Il faut se féliciter du lien finalement qui est fait entre ces fausses rébellions avec l'exploitation de ressources naturelles. Il n'est pas normal que des pays qui n'ont pas, notamment le coltan, deviennent exportateurs de coltan qui est le fruit du pillage de la République démocratique du Congo.
Gratien Irachan d'Ensemble pour la République estime que la RDC devrait négocier en position de force.
Il faut que nous puissions beaucoup travailler pour renforcer nos forces de sécurité, rééquiper nos militaires et ça pour négocier à la faveur partenaire de notre RDC.
Pour la sénatrice Francine Muyumba du FCC, la RDC devrait plutôt renforcer son armée.
Je pense que nous sommes en train de tourner en rond et en train de perdre également le temps. Nous devons donner les moyens qu'il faut à notre armée et se rassurer en mettant en place des mécanismes pouvant contrôler l'utilisation des moyens et de cette armée.
De son côté, Jean-Baptiste Mouindo Kasueka de la Mouka estime que la feuille de route de Luanda est une capitulation de la RDC devant son bourreau, le Rwanda.
Merci à vous une fois de plus, Michel Kifindangoy. Jusqu'à Kusema, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la presse présidentielle. À part les groupes d'information que nous pouvons avoir sur cette feuille de route, notamment la cessation des hostilités, les retours des réfugiés et la gestion des ressources naturelles, que prévoit exactement cette feuille de route jusqu'à Kusema?
Écoutez, les grandes lignes de cette feuille de route ont été bien reprises par votre reporter Kifin Dangoy. Mais ce qu'on peut noter, c'est la volonté commune de pouvoir trouver une solution pacifique à ces conflits. Mais le mérite de cette tripartite de Luanda, c'est aussi, comme l'ont dit les députés, certains autres députés nationaux, c'est pratiquement l'acceptation du Rwanda de son soutien au M23. Et que lorsque vous lisez de près toutes les résolutions, disons, toutes les grandes lignes de cette feuille de route, on comprend bien donc qu'il y a une connivence avérée entre le M23 et le Rwanda. Donc on peut dire maintenant que c'est un pas de plus dans cette résolution pacifique. Et comme n'a de cesse de dire le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes les voies qui mènent vers une solution pacifique de la crise sont à explorer. Mais ceci n'exclut pas non plus d'autres options en cas de mauvaise foi du Rwanda.
Voilà, donc vous dites que ce sommet traduit la volonté commune de trouver une solution pacifique à cette crise. Mais la question que l'on se pose, c'est celle de savoir, c'est en tant que président de la République du Rwanda ou en tant que parrain de la rébellion du M23 que le président Paul Kagame a pris des engagements par rapport à cette feuille de route?
Écoutez, ce qui nous intéresse, c'est que c'est la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo qui était au centre. Et donc, lorsqu'un chef de l'État participe à cette rencontre, ça signifie que sa responsabilité est engagée. Et aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que le Rwanda soutient clairement le M23 et qu'il est donc normal que le président du Rwanda puisse prendre de résolution dans ce sens.
Et par rapport à la cessation des hostilités, par rapport au cessez-le-feu immédiat qui a été, n'est-ce pas, convenu, en quoi la feuille de route de Luanda peut-elle engager le M23 qui n'a pas été convié à cette réunion et surtout qu'il ne reconnaît toujours pas, n'est-ce pas, être appuyé par les Rwanda? Et les affrontements de ce matin entre les M23 et les FRDC ne constituent-ils pas une illustration, Monsieur Giscard Kusema?
Écoutez, on connaît un peu cette rhétorique négationniste du M23. Aujourd'hui, je crois que l'opinion nationale et internationale n'a plus besoin d'avoir un quelconque avis de ces groupes armés à partir du moment où on sait qui les arme, qui sont derrière eux et qui prennent des engagements en leur nom. Et on a toujours dit que la résolution pacifique n'exclut pas aussi une résolution armée. On l'a toujours dit. Donc c'est une chance à la diplomatie. Et si dans les jours qui suivent, ces gens ne changent pas leur position, écoutez, on a plusieurs tours de manche. La République démocratique du Congo, dans tous les cas, ne se laissera pas faire et va défendre, il en a les moyens en tout cas, va défendre l'intégrité du territoire national. Mais pour l'instant, nous pensons que la participation du président Paul Kagame à cette question et les résolutions prises par lui par rapport à cette question prouvent qu'il a une part des responsabilités dans ce qui se passe en République démocratique du Congo avec le M23.
À votre avis, Luanda consacre une avancée ou c'est plutôt le statu quo?
Non, nous ne serons pas être aussi négationnistes ou pessimistes. Donc nous pensons que c'est quand même un pas de plus dans ces conflits et laissons le temps au temps. Il faut vider d'abord les arguments de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de possibilité d'une résolution pacifique et après, une évaluation se fera et puis la République démocratique du Congo prendra ses responsabilités pour imposer la paix dans son pays.
Et si c'est un pas de plus dans ces conflits, comme vous venez de le dire, comment la RDC peut-elle capitaliser cette avancée et pour faire cesser tout soutien au M23?
Écoutez, c'est un processus, il y a des institutions, il y a des instances habilitées quant à ça, tout n'est pas à dévoiler ici. N'oubliez pas qu'il s'agit avant tout d'une question sécuritaire et que ceux qui ont en charge la sauvegarde de la sécurité vont prendre des dispositions utiles. Donc c'est un processus qui est engagé. Attendons la réunion du mardi 12 juillet courant pour déterminer ce qui va se passer dans les prochains jours.
Quand on dit cesser le feu immédiat, cela signifie quoi exactement? Parce que les hostilités se poursuivent sur le terrain.
Mais écoutez, l'opinion constate, c'est clair que lorsque il y a les acteurs qui sont sur le terrain ont des velléités belliqueuses, écoutez, l'évaluation se fera à travers ce mécanisme qui vient d'être relancé et puis les uns et les autres seront mis devant leurs responsabilités. Donc nous pensons que ça ce sont des soubresauts simplement, une montée d'enchères inutile pour ces groupes-là. Et aujourd'hui, ce qui intéresse l'opinion, c'est qu'on sait qui les arme, qui les soutient et qui ont le mot. Attendons voir dans les jours qui suivent, on va activer ces mécanismes et puis la République démocratique du Congo va s'assumer pour la suite.
Merci, on vous regarde encore dans cette émission. Thomas Dakin-Mouiti, vous êtes vice-président et porte-parole de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Votre analyse par rapport à la feuille de route convenue à Luanda entre le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi.
Merci Guy Maté pour l'invitation qui m'a été réservée au cours de ce dialogue. La première chose, c'est de corriger ce que je suis. Je ne suis plus vice-président et porte-parole de la coordination provinciale, mais plutôt vice-président et porte-parole de la coordination nationale de la société civile force vive en République démocratique du Congo. C'est ça qu'il faut d'abord retenir. La deuxième chose, permettez-moi de saluer mes co-débatteurs et aussi m'acquitter d'une obligation de saluer tous les auditeurs de Radio Okapi sur toute l'étendue de la République, mais également saluer et présenter ma compassion à toutes les victimes de l'agression du M23 du Rwanda, mais aussi saluer la négociation qui a eu lieu à Luanda, en dépit de tout ce que les députés et les autres personnalités ont exprimé en disant qu'ils n'ont pas confiance aux résultats qui ont été obtenus à Luanda. Dans ma langue, il y a un adage qui dit que Nashala Napavanda Mumira Uwe. Ça signifie que tous ceux qui considèrent que ce qui s'est passé ne peut pas produire le résultat, ou du moins c'est tout simplement une utopie, une leurre, ils ont raison. Et ceux qui disent que on peut mettre confiance à ce qui a été fait à Luanda, et également ils ont raison. Puisque dans ma langue, quand on dit « Nashalana Pavanda Mumira Uwe », ça signifie que même si on est ami, quand l'ami vous maltraite, vous risquez de prendre une décision contre nature qui ne rentre pas dans l'amitié. Et donc, ils ont raison de ne pas y croire, puisque on a tout donné à Kagame. Depuis 1996, c'est l'armée rwandaise qui est rentrée sur le territoire congolais pour traquer les êtres de l'air. Et jusqu'aujourd'hui, il continue. Et il y a eu le programme Umojawao qui a été implémenté ici à l'est de la République, mais Kagame continuait à considérer que la RDC entretient les FDLR. Mais aujourd'hui, le résultat qui vient d'être obtenu signifie que Paul Kagame, qui était considéré comme Saoul hier, il est en train de devenir Paul, puisque dans aucune des négociations, Paul Kagame pouvait avouer que c'est vraiment lui qui entretient le M23, que le M23 n'est qu'un petit arbre qui cache une forêt et que c'est lui qui est derrière. Et donc c'est un résultat que tout Congolais doit considérer comme quelque chose de très capital et qu'il faut exploiter avec le mécanisme qui va se réunir le 12 juillet prochain. Mon analyse par rapport à la feuille de route, je considère que toute personne humaine peut changer. Il y a dans la Bible cet homme-là qu'on appelait Saoul, qui est devenu Paul, puisque autour de tous ceux qu'il a rencontrés sur son chemin, il est arrivé à changer de comportement et il est devenu l'apôtre qui a beaucoup travaillé plus que tous les autres 12 apôtres de Jésus. Et donc, Paul Kagame, je pense que pour aujourd'hui, il a manifesté qu'il était le Saoul d'hier et aujourd'hui, il veut devenir le vrai Paul de la Bible.
Thomas Dakin, Thomas Dakin Mouti, vice-président et porte-parole de la coordination de la société civile Force Vive de la RDC. S'il faut revenir sur cette feuille de route qui prévoit un certain nombre de choses, notamment la cessation des hostilités et les retraits du M23 de localité qu'il occupe, comment vous analysez ces différentes activités qui sont prévues dans cette feuille de route?
Je pense que c'est un succès de la négociation, c'est un succès dans la diplomatie du président Félix Tshisekedi, et il faut le reconnaître pour une fois que Kagame dise que c'est lui qui entretient le M23 et qu'il va exiger la cessation et le retrait du M23 sur le territoire congolais. Et donc c'est un succès, à mon avis, qu'il faut considérer et qui n'a jamais été dit, puisque hier, Paul Kagame disait que il ne se reconnaît pas et il ne sait pas d'où viennent les éléments du M23, mais aujourd'hui, quand il dit, il accepte qu'il y ait un cessez-le-feu. Comment vous pouvez décréter un cessez-le-feu sur une armée qui ne vous appartient pas? Certains posent la question en disant que comment ce matin il y a eu encore des... Non, il n'a pas encore donné l'ordre. Dès ce soir, il va donner l'ordre et nous imaginons que le M23, les éléments du M23 vont se retirer du territoire congolais et rentrer au Rwanda. Dès que Kagame les aura donné l'ordre de quitter.
Et donc vous pensez que le M23, en dépit du fait qu'il n'a pas été convié à ces sommets, il se sent engagé par ce qui a été pris comme décision?
Guy Maté, il faut retenir que depuis longtemps, nous de la société civile, on disait qu'il n'existe jamais, il n'a jamais existé un certain M23, puisque M23 avait été défait en 2013. Nous avons été à Kampala, à Munyonyo, dans la négociation. Le M23 n'avait plus la capacité d'attaquer. Les autres éléments du M23 ont été rapatriés au pays, ont été accueillis. Les uns sont déjà à Kinshasa, dans les institutions. Et donc le M23 n'existait plus. Il n'existait que l'armée rwandaise qui voulait, encore une fois, intégrer des milices, infiltrer des éléments rwandais dans l'armée congolaise à travers ce qu'il appelle le M23. Et donc, ça, il faut le retenir. Et je pense que c'est un succès que le président Tshisekedi vient d'obtenir pour une fois dans les négociations avec Paul Kagame.
Thomas Dakin Mouti, au sujet du retour des réfugiés, qui est aussi une activité contenue dans cette feuille de route, la question que l'on se pose, il s'agit de quels réfugiés? On se rappelle qu'il y a des personnes qui se sont réfugiées au Rwanda et qui exigent depuis toujours leur retour en RDC, mais aussi les réfugiés Hutus qui sont sur le sol congolais, qui chercheraient aussi à rentrer au Rwanda. Et à votre avis, comment la RDC et le Rwanda pourront-ils gérer cette question du retour des réfugiés qui est, il faut le reconnaître, une question complexe?
Écoutez, il faut encore reconnaître que c'est un succès que Tshisekedi vient d'obtenir. Quel est ce Congolais qui a refusé aux Congolais qui sont dans les camps de déplacés au Rwanda de rentrer au pays? C'est qui? Qui peut souligner que tel a refusé aux réfugiés congolais qui sont en Ouganda, qui sont au Burundi, de rentrer chez eux? Non, c'est seulement, ils sont pris en otage par Kagame s'ils se reconnaissent congolais. Le problème, c'est encore Kagame qui a refusé aux Rwandais qui se trouvent encore sur le sol congolais de rentrer avec ce qu'ils ont appelé, je ne sais pas, le chapitre 7 ou des choses comme ça, en disant que après telle date, tous ceux qui ne sont pas au Rwanda, ils ne sont plus considérés comme des réfugiés rwandais. C'est Paul Kagame qui a déclaré ça. Il n'y a jamais eu une résolution en RDC qui empêche à tout Congolais de rentrer chez lui. Et donc, c'est encore un succès si Kagame accepte que ceux-là qui l'a refusé, qui ne sont plus rwandais, doivent rentrer chez eux au Rwanda. Et donc, c'est un succès. Et pour moi, si le chemin est ouvert, il faut qu'il accepte également
que ceux-là qui sont arrivés au Congo, les enfants qui sont nés au Congo, on continue à considérer comme des êtres de l'air, doivent rentrer. Et que les êtres de l'air qui sont en Belgique et partout au monde puissent rentrer chez eux. Et cela exige également que Paul Kagame négocie avec ces réfugiés ou ces Hutus rwandais qui sont encore sur le sol congolais. D'ailleurs, ces réfugiés rwandais qui sont au Congo doivent applaudir en disant donc il y a une ouverture que Tshisekedi vient d'obtenir pour eux.
Merci Thomas Dakin Mouti, vice-président et porte-parole de la coordination de la société civile Force Vive de la RDC. On vous regarde encore dans cette émission. Professeur Dadi Salé, docteur spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC d'Afrique. Quelle est votre analyse des conclusions du sommet de Luanda hier?
Oui, je pense que néanmoins, j'aimerais préciser qu'il y a déjà eu trop de négociations. Trop désaccords, accord de Nairobi, un peu de partout, etc. Plus ou moins 40, si on doit décider, à 10 à départ, et que malheureusement, tous ces accords-là n'ont jamais donné des résultats pour le peuple congolais, des résultats palpables. Ça, c'est la première précision. Ce qui fait que ça, c'est un autre accord de plus que bien, tant qu'on peut avoir l'option diplomatique. Ce n'est pas mauvais. Mais je pense que ça ne devait pas être ça l'essentiel. Avant même d'aller là-bas, nous estimons que le président de la République veut effectivement prioriser l'option militaire. Donc l'option d'une politique de défense adéquate, comme l'avait recommandé d'ailleurs le Conseil supérieur de la défense. Mais jusque-là, on ne voit pas exactement des changements. Pourquoi? Parce que l'option diplomatique, l'option des négociations, pas exactement avec ce qu'on dit en diplomatie. Il ne s'agit que des intérêts et il ne s'agit que des rapports de force. Si nous nous présentons sur une table de négociation, tant que les rapports de force soient assez acceptables, eh bien, nous connaissons les conséquences, comme à Nairobi. En fin de compte, le M23 ou bien les Rwanda totalement, eh bien, fait semblant. En force exactement de ces accords-là, l'M23 est toujours là. Et peut-être que cet accord risque d'avoir encore de mêmes effets, tout simplement parce qu'on n'a pas considéré les plus grands aspects de l'option militaire, de l'option de la défense. Comment considérer cet aspect? On ne le considère pas par des paroles, non, absolument pas. Et nous avons une constitution. Le président de la République devait déjà enclencher l'article 63. Je pense que mes co-débatteurs viennent d'en parler un peu. Parce que c'est une question de dissuasion. L'article 63, même si on dit que gouverner, c'est exiger des prévoir, effectivement, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été prévu depuis. Nous avons des députés, maintenant chacun raconte des histoires à la télé, à la radio, mais entre nous, cette loi-là devait être déjà, il y a une proposition de loi qui est au Parlement, si je ne m'abuse, où déjà on devait former, comme un de mes co-débatteurs vient de le dire, les enfants même des universitaires. Et on devait appliquer maintenant l'article 63 en ordre, c'est-à-dire la dissuasion, c'est être. On se met en ordre. La situation est tellement grave que j'estime que apparemment, jusque-là, on n'a pas lu l'histoire. Ça fait plus de 30, 40, 50 ans que nous sommes dans cette situation. C'est ce qu'il faut noter. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ça ne commence pas avec le président Tshisekedi. Mais apparemment, c'est aujourd'hui ou bien il y a un jour qui vient de comprendre que ben non, et il faut aussi montrer ses muscles, c'est-à-dire l'option militaire. Il faut le faire en pratique, parce que si déjà nous avions des organisations avec l'article 63, ça va, et que nous déclenchons, ou bien nous sommes prêts à déclencher, comme il a dit, l'article 86, c'est-à-dire la guerre. La guerre ne signifie pas qu'on attaque le Rwanda, non. Les gens confondent la compréhension de l'article 86. C'est-à-dire tout simplement qu'on donne tout le moyen, effectivement, au gouvernement, et qu'on ne porte plus des cravates en train de donner aux députés des chips, ou bien non, on se concentre à la guerre. On laisse même certains chantiers. On se concentre à des grands chantiers pour la République démocratique du Congo, pour la paix.
Professeur Dadi Salé,
oui.
Oui, s'il faut revenir aux activités qui sont, n'est-ce pas, prévues dans cette feuille de route, on a parlé d'un cessez-le-feu immédiat. Les affrontements de ce matin entre le M23 et le FARDC ne constituent-ils pas un message, à votre avis, par ces affrontements? Est-ce que le M23 ne serait pas en train de faire passer un message selon lequel il ne dépend pas du Rwanda. Une façon pour lui, n'est-ce pas, de dire que ce qui a été convenu à Luanda ne concerne nullement le M23.
Nous comprenons que c'est un double jeu, parce qu'effectivement, c'est là où nous recommandons qu'on puisse plus continuer avec cette diplomatie naïve. Nous, nous comprenons très bien. Après, si les gens disent que, et c'est ce que nous supposons, Paul Kagame a signé.
Allô, professeur Dadi Salé? Voilà, apparemment, nous l'avons perdu. Jusqu'à Koussé, est-ce que vous êtes là?
Oui, je vous écoute.
Oui, toujours par rapport à cette question, peut-on dire que Luanda constitue un autre processus en plus de celui de Nairobi? La particularité de Luanda est que ces processus concernent un seul groupe armé, qui est le M23 et le Rwanda, qui est accusé comme étant son parrain. Est-ce que c'est un autre processus en plus de celui de Nairobi?
Non, nous ne pensons pas qu'il s'agit de deux processus différents. Il s'agit d'une seule même problématique, c'est la problématique des groupes armés qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Et parmi ces groupes armés, il y en a qui se sont montrés très favorables, qui ont même adhéré au processus de Nairobi, qui voudraient que tous les groupes armés locaux puissent déposer les armes. Ils ont répondu à l'invitation leur lancée par le président de la République. Le mandataire spécial les a tous rencontrés et tous se sont montrés favorables. Donc il s'agit d'une seule problématique. Mais par contre, il y a un groupe dont le soutien du Rwanda n'est plus à démontrer aujourd'hui, qui s'est montré réfractaire. Pour celui-là, il est clair que le processus de Nairobi a prévu une réponse appropriée, on l'a dit. Donc l'option diplomatique n'exclut pas l'option militaire, et les deux ne sont pas incompatibles. Mais le président de la République a toujours dit que là où on peut résoudre les problèmes par la voie pacifique, ça nous épargne de moyens, ça nous épargne de pertes en vies humaines. Mais s'il y a des groupes qui nous amènent vers cette option-là, tout est clair. N'oubliez pas que les forces armées sont en train de s'organiser. Il y a la force sous-régionale également qui est en train de se mettre en place pour traquer les réfractaires. Donc le mérite aujourd'hui de la tripartite des Rwanda, c'est d'avoir impliqué directement le président du Rwanda, pays qui aujourd'hui apporte son soutien au M23. Cela ne s'était plus passé depuis plus de 20 ans. Voilà.
Jusqu'à Kusema, les processus de Luanda pourraient-ils être susceptibles de ramener la paix et faire dissiper la méfiance entre les deux pays, entre le Rwanda et la RDC?
Oui, bien sûr, à partir du moment où il y a une volonté des deux pays de faire retourner les réfugiés. Aujourd'hui, les FDLR qui sont arrivés au Congo comme réfugiés, on le rappelle, qui sont entrés en République démocratique du Congo comme des réfugiés, et que le processus de Luanda a demandé que tous les groupes armés étrangers rentrent dans leur pays, nous considérons que parmi ces réfugiés, il y a des groupes armés. Donc, n'oubliez pas non plus que cet appel avait été lancé à tous les États de l'EAC. Le Burundi avait favorablement accueilli cette nouvelle, a publiquement annoncé le début d'un dialogue constructif avec leurs rebelles qui est dans l'espace EAC, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Alors pourquoi les Rwanda ne le feraient pas? Donc nous pensons que, nous considérons que c'est un geste de bonne foi. N'oubliez pas que la réunion de Rwanda a été considérée comme une réunion de vérité. Pour une fois, le président de la République a été en face de celui qui a toujours été accusé de soutenir l'M23 et d'avoir de près les résolutions. Donc ça signifie que si le Rwanda est de bonne foi, dans les jours qui suivent, on devrait voir des gestes dans les bons sens.
Merci. On me signale que le professeur Dadi Salé est de nouveau là. Professeur Dadi Salé, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà. Cette fois-ci, c'est que tout le monde a constaté que ce n'est plus avec le M23 que la RDC parle directement, mais plutôt avec le Rwanda. Et à votre avis, quelles sont les forces et les faiblesses d'une telle approche?
Oui, ça comme force au moins d'exposer le Rwanda, pas, devant ses propres responsabilités, ça c'est sûr et certain, et devant cette acceptation, qu'on dit être une acceptation directe, mais ça veut dire que ce n'est pas une acceptation directe, c'est une acceptation indirecte, ce qui fait que c'est quand même une sorte d'avancée. Mais ça, comme faiblesse, effectivement, parce que exactement, eh ben, le 1-23 vont se cacher derrière leur alibi, comme d'habitude, disant que, ben, écoutez, vous avez signé avec les Rwandais, nous ne sommes pas les Rwandais, même si nous savons qu'ils sont les Rwandais. Ce qui fait qu'il y aura une difficulté d'application et d'applicabilité de l'accord, effectivement, de Luanda. Parce que tout simplement, ben, écoutez, si les M23 ne font pas des cessez-le-feu, on va condamner qui? On va condamner les Rwandais. Et les Rwandais, vous allez les suivre dans quelques jours, malheureusement, c'est là où je parle d'une diplomatie naïve, mais ben, les Rwandais va dire quoi? Mais écoutez, ça ne nous engage pas. Nous, nous sommes d'accord que les M23 puisse déposer les armes et cessez-le-feu immédiatement, mais nous ne sommes pas les Rwandais. C'est ce qu'ils vont nous rétorquer. Donc, il s'agit d'avancer, mais quand même, la RDC reste piégée avec cette approche où on ne dit pas vraiment le vrai mot. Il faut bien noter que la communication de notre présidence, ça a été une communication un peu différente de la communication de Luanda. Et le Rwanda que je suivi a eu une autre communication un peu différente. Il nous faut le document final pour que nous puissions vraiment nous rassurer que, ben, entre guillemets, est-ce qu'on a vraiment les accords? Ces trois parties se sont mis d'accord 100%.
Justement, professeur Dadi Salé, ce sommet n'a pas été sanctionné par un communiqué final commun. Ça peut être dû à quoi, selon vous?
Ben, je pense par une mauvaise diplomatie. Bon, ok, on accepte les améliorations de la diplomatie congolaise, ça il faut le dire, hein. Il faut vraiment le dire, pour une fois, on a senti le président de la République prendre un ton d'un chef d'État qui aime son peuple. C'est juste le temps. Mais j'aimerais dire que un État n'hésite pas avec la bonne volonté ou bien avec le temps. Il nous faut des actes. Je pense effectivement que notre communication de la présidence devait prendre le relais. Il y a beaucoup de reproches. Même à Nairobi, on n'a pas une vraie communication en français. Ici, on sort avec une communication floue. Chacun raconte ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'ils veulent en fin de compte? Doit-on attendre le 12? Donc je pense que ce désordre ne fait que faciliter les Rwandais, qui je vous le signale. Et je n'ai pas besoin d'être un analyste des mauvais augures. D'ici quelques jours, ben, vous allez bien comprendre qu'ils vont dire que nous ne sommes pas les M23.
À votre avis, professeur Dadi Salé, les processus de Luanda pourraient-ils être capables de ramener la paix et faire dissiper toute cette méfiance entre les deux pays, entre les Rwandais et la RDC?
Je dis directement non, mais c'est une possibilité. Je pense que le processus de Luanda ou bien l'accord de Luanda, cette feuille de route effectivement, ne peut réussir que si nous mettons l'option militaire comme l'option principale. On ne doit pas confondre les options. J'entends tout le monde parler, non, on mélange toutes les options. Non, il ne faut pas mélanger toutes les options. On a tous quand même fait les statistiques et l'école. Et dans le management, on doit savoir prioriser. L'option militaire à 90%, un point entré. Et maintenant, l'option diplomatique ne vient que soutenir l'option militaire. Donc, on ne doit pas confondre. Ce qui fait que si nous n'enclenchons pas l'article 63, si nous n'enclenchons pas l'article 86 de la Constitution, où on est prêt à se battre, et comme je disais, enclencher l'article 86 ne veut pas dire que c'est une question de partir en guerre. Non, on met tous les moyens et tous les protagonistes, tous ceux qui sont contre les intérêts du peuple congolais, vont comprendre que nous ne blaguons plus.
Merci.
Nous ne sommes pas en train de faire des discours. Et
merci.
À ce moment, une attention particulière, l'option politique est importante. Parce qu'en fin de compte, on sent un peu une unité politique avec tous les politiciens, tout le corps, pour qu'on puisse comprendre que quand... Alors, comme je suis un panafricaniste, quand le feu brûle au village, on oublie d'abord des querelles intestines. On se bat contre l'ennemi qui vient de l'extérieur. Quand le serpent entre dans la maison, eh ben non, il ne faut pas dire que ce n'est pas dans ma chambre. Donc, on appelle vraiment tous les politiciens à soutenir le FARDC et que nous puissions finir avec cette guerre.
Merci. Thomas Dakiamwiti, vous également, hein, comment vous entrevoyez la suite du processus de Luanda? Est-ce que ce processus a la capacité de ramener la paix et faire dissiper toute cette méfiance entre les Rwandais et la RDC?
Écoutez, l'espoir est autorisé, l'espoir est permis. Il ne faut pas désespérer et croire que lorsque des hommes se mettent autour d'une table, tout ce qu'ils ont dit, c'est du koiboui. Non, moi j'ai un peu d'espoir dans ce qui a été fait à Luanda, mais l'option militaire doit être également mise sur pied. Et c'est là que j'ai commencé à dire que le chef de l'État doit organiser maintenant, pendant les vacances qui vont commencer, que les élèves finalistes des humanités
soient encadrés dans des centres de formation militaire, avec les milliers de jeunes qui sont en train de finir les humanités, on peut déjà obtenir quelques 500 000 jeunes qui vont adhérer à l'armée. Les finalistes de cycle de gradués doivent être pris en charge, formés dans leur site, et non pas les amener à Kitona ou à Rumangabo et ailleurs, dans les institutions qu'on forme les jeunes, pour que dans les 6 mois qu'on attend, cette force régionale viendrait quand la RDC se serait dotée de plus ou moins 2 millions de jeunes qui vont adhérer à la formation militaire. Ça va faire respecter la RDC, puisqu'on est négligé, méprisé à cause de ces gens-là qu'on infiltre dans l'armée et qui savent qu'aujourd'hui nous avons les meilleurs militaires, mais avec un effectif insuffisant. Si nous avons 2 millions, 3 millions de jeunes formés militairement, je pense que le pays sera respecté et toutes les blagues que l'on est en train d'assister aujourd'hui vont être élaguées.
Merci. Nous allons maintenant donner la possibilité aux auditeurs de pouvoir contribuer aussi à ces débats. Giscard Koussema, vous êtes directeur adjoint de la presse présidentielle. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Patrice Mderwa Kulimushi, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du sud Kivu. Les conclusions de ce tripartite sommet entre la RDC et le Rwanda ne rassurent pas l'opinion congolaise, car le M23 peut ou ne pas répondre favorablement à l'appel du cessez-le-feu de M. Paul Kagame, d'où le renforcement des stratégies et opérations militaires serait la meilleure solution pour apporter solution à cette situation qui gangrène la population de l'est de la RDC.
Giscard Koussema.
Merci beaucoup, Guy Maté. Écoutez, les processus de Nairobi avaient prévu le scénario de tous les groupes armés réfractaires au processus de paix. Et pour rappel ici, il avait été décidé par tous les chefs d'État de la East African Community que pour ceux qui ne vont pas procéder à une reddition volontaire, eh bien, ils seront contraints par la force. Et donc, de ce point de vue-là, la réponse est que pour le M23, qui se montre réfractaire, ils vont subir l'épreuve de fait des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous voulons dire également ici que ce n'est ni une question de naïveté ou de faiblesse que de faire appel à une armée sous-régionale. Il s'agit simplement d'un mécanisme prévu dans la charte de la East African Community, dont la République démocratique du Congo est le 7e membre depuis le 8 avril dernier. La charte de la East African Community dit ceci: lorsque un État membre de la communauté d'Afrique de l'Est est attaqué, tous les autres font bloc pour combattre. Et ce n'est qu'une activation donc de cette disposition-là qui ferait qu'il y ait aujourd'hui de troupes sous-régionales, mais qui vont travailler sous le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, nous voulons ici répéter que l'option militaire est toujours d'actualité. Ce n'est pas incompatible avec toutes les démarches diplomatiques qui sont en cours, mais l'opinion devrait savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où toute la communauté nationale, sous-régionale, internationale se mobilise pour éviter la guerre du fait de ses conséquences par rapport à la population. On voit comment le monde est mobilisé pour faire cesser les hostilités entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, on ne voudrait pas que la République démocratique du Congo, qui a déjà payé les lourds tributs de cette situation, qui remonte depuis quelques 3 décennies maintenant, soit un terrain de bataille.
Giscard Koussema, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de la fin.
C'est un mot d'espoir. Le président de la République a toujours prôné la voie pacifique pour le règlement des conflits par rapport à la situation de l'Est. Et donc, ce qui vient de se passer à Luanda concourt justement à cette vision du président de la République, mais qui n'exclut pas l'option militaire. Et donc, dans les jours qui suivent, la République démocratique du Congo prendra ses responsabilités face aux groupes armés réfractaires, notamment le M23. Mais aujourd'hui, l'avantage de Luanda, c'est de nous avoir montré les vrais commanditaires qui a été en face et avec qui le président de la République a parlé de toutes les questions liées à la sécurité à l'est du pays.
Merci Thomas Dakin-Mouiti, vice-président et porte-parole de la coordination de la société civile Forces Vives de la RDC. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo.
C'est grâce à Bakajika depuis la ville de Kisangani. Moi je pense que, quelles que soient les conclusions trouvées dans cette rencontre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit toujours renforcer la sécurité à l'est du pays. La RDC soupçonnait le Rwanda de soutenir le M23. Maintenant, les deux présidents ont trouvé des conclusions sans pour autant inclure le M23 dans cette rencontre. Alors, je me demande, est-ce qu'il y aura vraiment un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC?
Thomas Dakin-Witi, vous réagissez à cette réflexion et vous allez aussi conclure parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Écoutez, j'ai déjà parlé de cette question et j'y ai déjà répondu. Le M23 n'existe que de nom. Il y avait l'armée rwandaise qui a voulu, comme cela a été déclaré par le président Kagame lui-même dans une de ses interventions sur les chaînes nationale rwandaise, soutenue par certains généraux et certaines personnes ou personnalités rwandaises, il était clair que l'armée rwandaise doit continuer à pourchasser les FDLR sur le sol congolais. Et donc, il n'existe pas du M23, il existe l'armée rwandaise qui se métamorphose en devenant le M23. Comme Kagame vient de donner le ton en disant qu'il y a un cessez-le-feu qui doit être proclamé immédiatement, je pense que ça va être de soi. Au moment de la fin, c'est de demander au chef de l'État d'organiser une formation accélérée dès aujourd'hui, pendant les vacances qui vont commencer, avec les finalistes des humanités, les finalistes du cycle des graduats, les finalistes du cycle des licences. Parmi eux, nous aurons des jeunes qui vont adhérer pour être sous le drapeau et nous aurons une armée constituée de plus ou moins 3 millions de jeunes et nous serons respectés.
Merci, professeur Dadi Saleh, docteur spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC d'Afrique. Et vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
C'est Freddy Venke Tubadimbinlai à partir de Kinshasa. Je salue tout d'abord les efforts et la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est toujours préoccupé pour ramener la paix totale dans l'est de notre pays. À mon humble avis, diplomatiquement, le chef de l'État congolais a marqué un but face à son homologue rwandais, qui est tombé dans son propre piège en signant un accord aussi principalement d'un cessez-le-feu dans la partie est de notre pays. Cet acte témoigne clairement la présence et le soutien du Rwanda au M23. Si vraiment la communauté internationale est sincère, elle devrait sanctionner le Rwanda pour tous les crimes commis en RDC.
Professeur Dadi Saleh, votre réaction et vous allez aussi conclure.
Oui, je comprends ce que je retiens de notre auditeur, c'est que, ben, effectivement, il parle encore de la bonne volonté. Et c'est ça même le plus grand problème que je pense notre diplomatie a. Nous semblons, comme je l'ai répété, avoir un peu une diplomatie naïve. Il n'y a rien à voir avec la bonne volonté ici. Et qu'effectivement, l'idée n'est pas de faire reconnaître que Kagame est avec le M23, puisque ça a été déjà dit en République du Congo depuis très longtemps. Nous, nous le savons. Parfois, on n'a même pas besoin que les États-Unis et la communauté internationale puissent le savoir. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons appliquer un peu la philosophie que je propose, Fujitomi Lukela, Fujitekemea. C'est-à-dire que la vraie solution doit être en nous. Et cela éclaire, c'est l'option militaire et de la défense. Au fond, j'ai dit, il faut que ça soit clair. L'option militaire est prioritaire. L'option diplomatique est totalement secondaire. Mais apparemment, le gouvernement met l'option diplomatique comme prioritaire et met l'option
votre conclusion, professeur. Votre conclusion.
Ma conclusion, c'est que le président de la République, et là, je devrais vraiment être clair, parce qu'en fin de compte, les gens ne comprennent pas la gravité de la situation. On a déjà eu plus de 11 millions
des Congolais qui sont décédés et le Rwanda a montré ses couleurs avec l'Ouganda et certains pays. On a plus de 130 rébellions. C'est-à-dire qu'on doit prendre des grandes décisions, pas des petites décisions. C'est-à-dire que le peuple est souverain. Monsieur le Président, vous avez l'obligation d'écouter le peuple. Et il faut donner le maximum de moyens à l'armée comme le Conseil supérieur de la défense l'a dit.
Merci à Giscard Koussema, à Thomas Dakinwiti et au professeur Dadi Salé d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à William Lungamba qui était à la technique et à Dona Badimba et Kéline Kouté qui l'ont réalisé sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Capi.